Quelle grâce, quel bonheur pour nous encore ce matin de pouvoir nous rassembler, n'est-ce pas? Certains ont peut-être retenu la date parce que c'est un jour férié, mais est-ce qu'il y aurait-il un jour férié s'il n'y avait pas une raison bien précise? Au-delà du jour, je crois que chaque dimanche est pour nous une occasion précieuse pour proclamer que Christ est... Allô? Christ est... Amen. Il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a payé pour nos péchés et il intercède pour nous. Quelle grâce! Amen. Et il ne faudrait pas tomber dans le piège de dire, tiens, c'est une chouette date. Hein? Et oublier pourquoi. Oublier le prix. Oublier la grâce. Alors je lisais cette semaine la parole de Dieu et je me disais, Seigneur, quand on regarde ta parole, il n'y a rien qui a été fait sans une raison bien précise. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui était écrit pour ne rien dire. Excusez-moi de dire ça. Même quand dans les psaumes, il y a écrit « pause ». Prenez le temps de la faire, cette pause de là. De la prendre cette pause et de réfléchir. Et vous verrez qu'à un certain moment, ce qui est écrit entre les lignes vient sur le cœur. Pourquoi Jésus a décidé d'aller à la croix pour nous? On avait un moyen de nous approcher de Dieu. Les hommes pouvaient s'approcher de Dieu. Il y avait un temple. Il y avait moyen de payer pour ses propres péchés, les sacrifices. Aujourd'hui, il y aurait encore du sang qui coule. Est-ce que ça aurait réglé le problème? Non. Jésus est allé à la croix pour nous offrir le meilleur. Êtes-vous convaincu de cela? Est-ce que vous avez cette assurance dans votre cœur que Jésus vous donne le meilleur? On pourrait être tenté dans les temps qui sont les nôtres, dans les difficultés que nous pouvons voir, entendre autour de nous, de dire « Seigneur, on est pris par l'inquiétude, Seigneur, on est pris par le chaos, on est étonné de ce qu'on entend, on est étonné de ce qu'on voit, Seigneur, j'ai peur. » Ça arrive. Mais la parole de Dieu nous dit que rien ne se produit sans que Dieu le permette. Donc, il tient toute chose entre ses mains. Amen. J'aimerais lire plusieurs textes avec vous ce matin et nous allons dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 8, à partir du verset 6. Hébreux, chapitre 8, verset 6. Et il dit ceci, « Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y a pas lieu d'en chercher une seconde. C'est bien en effet sous la forme d'une reproche que Dieu dit, « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce n'est pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'un pays d'Égypte, puisqu'eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, car je leur ferai grâce de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen. Amen. Vivement ce temps. Vivement ce moment où on n'aura plus besoin de dire, mais tu sais, tu as besoin de connaître le Seigneur. Pourquoi ? Parce que telle sera la révélation de Christ dans les cœurs, qu'en réalité, il y aura une transformation, une alliance véritable. Ce n'est pas une alliance extérieure, ce n'est pas un contrat extérieur. On est toujours en train de chercher de meilleurs contrats. Non ? Pour les assurances, par exemple, le téléphone. Ah, si on peut faire des économies, un meilleur contrat. On est toujours devant ce casse-tête de dire « Ah, j'aimerais avoir plus en payant moins. » C'est vrai ou pas ? C'est le cas pour tous, n'est-ce pas ? Mais là, le Seigneur nous dit « Je t'offre plus, je t'offre mieux et je paye le prix. » Qui pourrait nous offrir quelque chose de comparable ? Quelle grâce pour nous ! Et vous savez, c'est un contrat à garder, serré dans son cœur. Il ne faut pas se laisser déposséder par les vendeurs de rêves. Vous savez, il y a des années de cela, en l'an 2000, ça date un peu, il y avait un contrat téléphonique qui était sorti. Il s'appelait Millennium. Et ceux qui avaient ce contrat, à partir d'une certaine heure, ils pouvaient téléphoner gratuitement. Et ils ont lancé ce contrat et un certain nombre de personnes ont pris ce contrat. Eh bien, ceux qui ont proposé le contrat se sont repentis. Ils pensaient gagner plus, ils ont perdu plus. Et après, ils ont essayé de racheter les contrats à des sommes. Il y en a qui se sont vus proposer des sommes intéressantes pour pouvoir leur racheter le contrat. Et d'autres qui se sont fait avoir par des petites promesses. On vous offre un nouveau numéro de téléphone, un nouveau portable. Et la personne a dit, oui, je prends, sans analyser ce qu'elle venait de perdre. Parfois, la vie fait que nous passons rapidement de ce qui est vraiment bon à quelque chose de moindre. On a goûté au bonheur du salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que le monde peut nous offrir de mieux que le salut par grâce ? Et pourtant, on voit que malheureusement, les cœurs ont besoin d'une transformation parce que tant qu'il n'y a pas eu cette transformation, ils n'arriveront pas à comprendre l'acte de Christ à la croix. Pour certains, c'est resté juste une date dans le calendrier, un moment pour profiter. Tiens, on va faire telle chose ou on va faire telle fête. Les villes se disent c'est un moment pour pouvoir faire de l'argent. Les commerces, encore plus. Hein ? Et il y a la fête de ceci et la fête de cela. Mais quand est-ce que nous, en tant que chrétiens, on fait vraiment la fête pour le salut qui nous a été donné ? Est-ce que nous faisons tous les jours la fête pour dire « Seigneur, tu m'as sauvé ». Analysez bien votre oui. On dit souvent oui. Mais après, dans la réalité, combien de fois on dit « Ah Seigneur, mais ça, ça ne va pas. » « Ah Seigneur, ça ne me plaît pas. » Alors j'aimerais qu'on puisse comprendre comment le Seigneur veut amener ces transformations dans notre vie. C'est à l'intérieur que ça doit se passer. Or, regardez l'alliance, il dit « l'établira, je mettrai mes lois dans leur intelligence. » Dieu veut que nous soyons sages. Ce n'est pas l'intelligence humaine et charnelle, c'est l'intelligence spirituelle. Si on a besoin de la sagesse, dit la parole de Dieu, demandez-la, il vous la donnera, mais demandez-la avec foi. Amen. Après, il dit, je les inscrirai dans leur cœur. Oh là. Vous savez, quand on touche au cœur, on touche aussi au centre des sentiments, n'est-ce pas ? Ça veut dire que Christ va écrire des lois qui vont changer nos sentiments. On ne va plus se laisser avoir par les sentimentalistes, ou le sentimentalisme, mais on va garder nos sentiments attachés à Christ. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Appartenance. Vous sentez appartenir à Dieu ? Qui se sent appartenir à Dieu ? Si ce n'est pas le cas, il est encore temps de changer. Alors je vais vous proposer un contrat. Et on va en lire les clauses ensemble. Et vous verrez que ce que Christ vous offre est le meilleur. Amen. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4. Il est question d'une meilleure révélation, de mieux comprendre, de mieux saisir. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Notez bien. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait le monde. C'est le Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Amen. Si avant, on avait une révélation qui nous était partagée par des hommes, là, ce n'est plus des hommes qui parlent, c'est le Fils de Dieu. On pourrait parfois croire ou se dire, mais qui me dit que cette personne dit la vérité ? Chacun a son opinion. Posez la question, comment voyez-vous Dieu ? Chacun a son opinion. Peut-être chacun va en faire son petit dessin. Chacun il va avoir une image de Dieu avec la barbe blanche, longue. Il n'y a plus de rasoir dans le ciel. Les cheveux longs et la tunique de cette couleur et ceci et cela. Et l'autre dit non, 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 tu te trompes. Non, non, ce n'est pas possible. Non, non, il y aura autre chose. On a une vision humaine. Mais là, il nous dit que c'est par son Fils qu'il est question pour nous dans les derniers temps, de connaître le Père. Combien de fois on a pu entendre dire, mais est-ce que vous avez vu Dieu, vous ? Mais apprenez déjà à connaître le Fils et vous verrez, il ne vous parle que de son Père. Jésus parlera que de son Père. Dans sa dernière prière, il dira, Père, je t'ai fait connaître. Seigneur, j'ai accompli ta volonté. Ce n'est pas ma volonté que je suis venu accomplir, c'est celle de mon Père. Jésus n'a fait que nous diriger, nous adresser, nous communiquer un message qui nous présente Dieu le Père lui-même. Une meilleure révélation. Avoir cette révélation qui vient de Jésus. Qui voudrait avoir la révélation de Christ dans sa vie ? Qui est prêt à prendre le risque ? J'en connais qui ont pris le risque. Ils ont dit, mais Dieu, si tu existes, révèle-toi. Alors je vous avertis, ça décoiffe. Même si vous n'avez pas de cheveux. Ça décoiffe parce que Dieu va agir à l'intérieur. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas avoir quelque chose sur un mur ou un dessin ou quelque chose qui pourrait dire, tiens, j'ai vu un nuage, c'est Dieu. Ah, parfois, j'ai entendu des choses, je ne vais pas les répéter ce matin, il faudrait 3 jours pour tout vous dire. Mais parfois, je me dis, mais Seigneur, pourquoi on va chercher ce genre de choses ? Vouloir comparer le Créateur à la création, c'est chose impossible. Même si la création de Dieu, elle est incroyable. Quand vous regardez la nature par elle-même, elle est magnifique, la manière où Dieu a dessiné chaque chose avec un soin incroyable. Mais qu'est-ce que c'est tout ça devant la gloire et la majesté de Dieu ? Rien. Rien. Et alors, on a besoin que Christ nous révèle. Une meilleure espérance. Hébreux chapitre 7, verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et d'autre part, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Quelle espérance pouvons-nous avoir sans Christ de nous approcher de Dieu ? Certains se diraient, attends, je vais regarder mon arbre généalogique, si je retrouve peut-être quelques racines juives dans ma vie, peut-être que j'ai le droit de revenir à Israël, terre sainte. Et une fois que tu es arrivé à Israël, tu verras que Israël n'est pas différent que tout le reste du monde. Parce que là-bas aussi, malheureusement, le péché abonde. Donc ce n'est pas une question de lieu, c'est une question de cœur. Et si c'était par simplement dire j'ai ou pas du sang juif. Dans la parole de Dieu, il nous est dit que dans l'ancienne alliance, ceux qui n'étaient pas juifs, ils avaient le droit juste d'arriver dans les parvis, ils ne pouvaient pas rentrer dans le lieu saint, et encore moins, non ? Aller plus loin. Le lieu très saint était réservé au souverain sacrificateur une fois par an. Il y rentrait d'une certaine manière. Mais rester dans les parvis. Imaginez que ce matin, pour une raison qui nous échappe, vous serez arrivé juste aux escaliers. Et après, nos frères du service d'accueil vous auraient dit « Ah non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je suis désolé, ce n'est pas moi qui décide. Tu ne peux pas. » Quelle déception ! Et la volonté de Dieu, c'est que cette barrière soit enlevée. Donc pour cela, nous avons besoin de Christ, parce que c'est le seul moyen en réalité de nous faire sortir d'une loi pour une espérance meilleure, cette espérance qui nous permet de nous approcher de Dieu. J'ai vu parfois des gens se démener pour arriver tout proche d'une star, d'une vedette du cinéma. Hein ? Qu'est-ce qu'ils ne sont pas prêts de faire ? Certains dorment sur place plusieurs jours à l'avance, ou assis sur un escabeau pendant des heures. Et je me dis, quelle grâce nous avons, nous, de pouvoir aller à Jésus à tout moment. À quelle heure vous avez prié ce matin ? Six heures ? Si tu avais prié à 5 heures, Dieu t'aurait répondu quand même. Si quelqu'un a prié à 4 heures, il a eu une réponse. 3 heures, pas de souci. La porte de Dieu n'est jamais fermée. Allez voir une vedette ou une autorité quelconque, de telle heure à telle heure. Et encore, s'il n'y a pas l'apéro au milieu, meilleure espérance. Une meilleure alliance et sacerdoce. Hébreux chapitre 7, versets 21 à 28. Les autres, en effet, sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais lui, Jésus, est devenu avec serment par celui qui lui a dit le Seigneur, l'a juré, et ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour l'éternité. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleur. De plus, ces sacrificateurs ont existé et en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela, ainsi, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et le plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi, en effet, établit comme souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse, mais la parole du serment postérieur à la loi a établi le Fils qui est parvenu pour toujours à la perfection. Amen. Celui qui se confie en Jésus pourra véritablement connaître le pardon de ses péchés. Pour ceux qui ont déjà fait cette expérience du pardon de Dieu, moi, je me rappelle le jour où je suis venu au Seigneur. J'ai eu vraiment le sentiment que finalement, ce qui m'écrasait était tombé. Et j'avais plus besoin de le reprendre et de le traîner comme un boulet derrière moi, toutes les accusations, toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Ce jour-là, Christ m'a lavé, purifié. Et certes, on a besoin encore de grandir avec Dieu. On a besoin tous les jours de faire recours à Christ. Et Dieu soit béni parce que Christ est là. Et comme je disais tout à l'heure, à n'importe quelle heure vous appelez à Jésus-Christ, il sera toujours là. Il ne nous laissera jamais tomber. Il a obtenu un ministère, il dira Hébreux 8:6, d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance meilleure fondée sur de meilleures promesses. Waouh ! On aime bien de meilleures promesses. Hein ? Oui ? Qui veut de meilleures promesses ? Mais on ne peut pas avoir les promesses sans nous engager. Je suis désolé. Si quelqu'un est venu ce matin à l'église en pensant aujourd'hui, c'est Pâques, je vais à l'église, hein, j'ai fait mon devoir de bon chrétien, je suis sauvé, tout va bien, et demain je repars à faire tout et n'importe quoi, vous avez raté le coche. Même le fait d'aller tous les dimanches à l'église, tant que vous n'avez pas donné votre cœur à Christ, vous n'êtes pas sauvé. Excusez-moi de vous dire ça. Je disais à quelqu'un il y a quelque temps, est-ce que entre être dans l'eau avec un requin qui tourne autour, être dans le bateau, est-ce qu'il y a une différence ? À votre avis ? Imaginez-vous dans l'eau, vous avez une main sur le bateau. C'est rassurant. Hein ? Vous avez un petit poisson de 6 à 7 mètres qui vous voit comme un petit sushi et qui est en train de prier en disant « Merci Seigneur pour le repas d'aujourd'hui. » Est-ce qu'il y a une différence entre être dans l'eau et être dans le bateau ? S'il n'y a aucune différence, mais continuez à vous baigner. Mais s'il y a une différence, le fait d'avoir la main juste sur le bateau, ça ne vous sauve pas. Il faut être dans le bateau. Il faut être avec Christ. Il faut accepter que le Seigneur nous sorte de notre vieille vie. Oui, mais dans l'eau, Seigneur, je ne sèche pas. Seigneur, je vis un peu ce que je veux. Mais tu vois, j'ai une main sur le bateau. Il y en a qui ont posé la question au Seigneur en disant « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Vous connaissez la réponse ? « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » « Ah oui, Seigneur, mais c'est la période des soldes. Est-ce qu'on ne peut pas faire 50-50 ?» Non. Le salut ne sera jamais aux soldes. C'est clair ? Il n'y aura pas de moratoire. Tout a été déjà accordé en Jésus-Christ. Il n'y aura pas un contrat qui nous permettra de vivre un salut, excusez-moi, light, plus léger, allégé. Le salut de dernier instant. Ah, combien on a pu imaginer un instant se dire, mais à la dernière seconde, je dirai Seigneur, pardon, et je serai sauvé. Vous savez, quand vous regardez à la croix, Jésus s'est trouvé avec deux brigands. Et les deux étaient dans les mêmes conditions. Êtes-vous d'accord avec moi ? Tous les deux attachés à une croix. Et encore là, nous voyons la sagesse de l'un en disant « Seigneur, souviens-toi de moi. » Et l'autre dit « Ben écoute, si t'es le Seigneur, fais-nous descendre. » Vous savez, il y a toujours cette folie dans l'être humain d'essayer de trouver le moyen de s'écarter de ce qui est véritablement le salut de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'on pense trouver meilleur ailleurs. Un jour, j'ai rencontré un homme qui était en quête du salut et qui pensait que par ses propres œuvres pouvait être sauvé. Et pas content de la manière où les choses allaient, un jour, vous savez ce qu'il a fait ? Il a bâti une croix sur une montagne et il s'est mis le feu. Il s'est suspendu à cette croix et s'est mis le feu. Et il pensait que comme ça, il allait gagner le salut. Il a été brûlé au troisième degré. Et là, quelqu'un qui l'a entendu hurler est arrivé sur place, il est intervenu, les pompiers, tout ce qu'on suit. Et finalement, pendant qu'il était dans l'hôpital, quelqu'un est passé lui proposer de lire la Bible avec lui. Et seulement là, finalement, il a rencontré Jésus-Christ. Il a donné son cœur au Seigneur. Et le Seigneur a reconstruit sa vie. Il y avait des parties de son corps qui étaient détruites. Mais Dieu a rétabli son cœur. Il a compris que quoi qu'on puisse faire par nos propres efforts, on n'obtiendra jamais le salut. Ce n'est que par Jésus-Christ. Et pourtant, on pourrait se dire, mais là, c'est un sacrifice incroyable, non ? Mais Dieu ne nous demande pas ça. Le sacrifice incroyable, c'est Christ qui l'a fait. Lui, son péché, a payé pour nous. Une meilleure possession. Amen. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance. Ce n'est pas la tout risque. Qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Il est question de fidélité avec Dieu. Il n'est pas question de remettre chaque année à nouveau et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu m'offres cette année si je reste avec toi ?» J'ai connu quelqu'un qui m'a dit que tous les ans, il refait le même parcours avec toutes les assurances, avec tous les... Qu'est-ce que vous me proposez de mieux ? Et il passe des heures, des fois pour gagner 50 centimes. 50 centimes ? Ah, j'ai gagné 50 centimes. T'as perdu combien d'heures de ta vie, là ? Hein ? Et là, il est question pour nous, frères et sœurs, de ne pas laisser tomber, de ne pas abandonner notre assurance qui comporte une grande récompense. Peut-être que parfois dans la vie, on pourrait être tenté de chercher autre chose ou de croire un salut différent, une patrie différente, un monde différent. Hébreux 11, 16, il nous parle d'une patrie meilleure. Oui, meilleure que la nôtre. Excusez-moi, hein ? Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il a préparé une cité. Qui veut aller à la cité céleste ? Pourquoi ? Ok. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour y arriver ? Accepter Jésus, très bien. Mais il n'y a que ça. Où est-ce que vous voulez-vous vous trouver dans le ciel ? C'est une vraie question. À côté de qui ? Mais vous savez qu'il y a un moment où il dit, tu as été fidèle. Rentre. Tous les jours, on devrait se poser la question, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui j'ai été fidèle ? Si le Seigneur venait nous chercher cette nuit, bon point, on était au culte ce matin. Bon point. Deuxième bon point, on a chanté tout notre cœur. Troisième bon point, Seigneur, j'ai pu prendre la Sainte-Seine quand même ce matin. Quatrième point, je ne me suis pas mis en colère parce qu'on m'a dit de déplacer ma voiture. On est comme ça, on calcule les bons points. Et vous savez, il suffit d'une chose pour que les points... Ah Seigneur, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Il est question juste de fidélité. Si on est fidèle dans les petites choses, dit la parole de Dieu, Dieu nous en confiera. Mais qui dit plus grande veut dire aussi plus grande responsabilité, non ? Plus grand engagement. Alors moi je voudrais dire ce matin, puisqu'on est conscient de ça, arrêtez de vouloir rester dans les petites fidélités. Et laissez Dieu vous en confier des plus grandes. Oui, mais Seigneur, moi ça m'arrange, tu sais. Mais la fidélité, c'est quelque chose qui doit grandir, non? Alors, est-ce que le Seigneur a besoin qu'on lui prouve qu'on est fidèle? Il sait très bien. Vous savez, vous ne pouvez pas vendre au Seigneur votre CV. Si on prenait les CV, ce matin, on ne verrait que de bonnes choses. Travailleur, attentif, toujours présent, motivé. C'est prendre d'initiative, c'est faire preuve d'initiative, pardon. Diplômé de ci, diplômé de ça. Ben vous savez, moi je ne vois personne jamais sur le CV noter les défauts. Hein? Vous mettez les défauts dessus? Ah, vous avez encore moins de possibilités de trouver un travail comme ça. Mais oui, mais j'étais vrai. Le Seigneur ne vous demandera jamais votre CV. Il vous connaît très bien. Par contre, il va vous poser une question. Et peut-être que cette question, il va vous la poser plusieurs fois. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Quand on parle d'amour, on parle aussi de fidélité. N'est-ce pas ? Il est question pour nous, frères et sœurs, de tenir une meilleure résurrection. Oh là ! Est-il possible ? Il y a quelques semaines, on a discuté avec quelqu'un qui croyait dans la réincarnation. C'était une longue discussion de 2 heures. 2 heures. Et à un certain moment, cette personne disait qu'on se réincarne parce qu'on devient meilleur. J'ai dit donc, si je suis votre discours, il n'y a plus de mauvais dans le monde. Alors il dit non, c'est ce que je pense. Ah ! C'est autre chose alors. C'est autre chose alors. Regardez ce qu'elle dit la parole de Dieu. Hébreux 11, 35. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. Ça veut dire que notre résurrection meilleure n'est pas forcément celle que nous nous envisageons pour nous sortir de nos problèmes personnels tous les jours. Mais c'est celle que nous aurons au Jésus-Christ, quand on sera dans le ciel une fois pour toutes. Amen. Au son de là, les morts en premier. Amen. Et après quoi ? Non, 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 ma sœur. Ah non, pas tout de suite le jugement. C'est l'Église, les vivants, nous. Hein ? Et on sera ravis dans le ciel en un instant. Calculez un instant. C'est encore plus court que ça. Il n'y aura pas de temps de dire, Seigneur, ah, si je pouvais avoir le temps encore, non. C'est fini. Et il est question pour nous de nous présenter devant le Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, Jésus-Christ, le vivant. Alors je voudrais vous dire, quelle qu'il soit l'épreuve, la difficulté que nous vivons ou que nous serons amenés à vivre, il y a quelque chose de meilleur qui est devant nous. Ce matin, mon frère, ma sœur, peut-être tu te dis, mais si toutes ces choses sont meilleures, pourquoi je vis autant de preuves et de difficultés? Peut-être quelqu'un pourrait se dire, mais pourquoi, si on parle de toutes ces choses les meilleures, pourquoi c'est si difficile de marcher avec Jésus tous les jours? Pourquoi faut-il renoncer à tant de choses pour être avec Jésus? Est-ce que tu renonces, c'est ce qui est le poison de ta vie. Il y a une grande différence que manger des choses, excusez-moi, qu'on retrouve dans les poubelles, parce que le péché, ce n'est que ça, et manger à la table du roi des rois. Je ne crois pas qu'on dit « Ah, c'était mieux la poubelle numéro 35 en chemin du je ne sais pas quoi. Hein » Quand on mange à la table du roi des rois, on n'a pas envie de revenir à ce que peut-être pendant X temps a été notre nourriture. Le seul moyen de subvenir à nos besoins, connaître Christ Hébreux 11, 36 à 40, je termine. Pour nous encourager, frères et sœurs, à comprendre que le meilleur est devant nous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal, on a du mal à comprendre pourquoi le monde part dans la direction qu'il prend. Qui aimerait vivre dans un pays où tout le monde est chrétien, engagé avec Christ? Ça serait super, hein? Non? Qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Tu sors de chez toi, tu n'as même pas besoin de fermer la porte de ta maison. Il n'y a que des frères et sœurs qui habitent à côté. Tu n'as pas de risque, non? Tu arrives au supermarché, et au supermarché, ce n'est pas l'annonce de la semaine, c'est l'étude de psaume 100. Rentrer dans sa présence, non? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, tout va bien, béni de l'Éternel. Alléluia! Qu'est-ce que je te prépare ce matin? Ça ne serait pas bien, ça? Vous allez acheter votre pain et il vous parle en verset. Hein? Qu'est-ce que tu veux du pain? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Un demi-kilo de viande? Non, laisse la chair. Prends le poisson. On aimerait tous voir ça. Mais je vais vous dire ça, c'est une utopie. Moi, je veux bien qu'on prie pour la paix dans le monde. Mais soyons réalistes. L'homme veut de la paix sans Dieu. Et ça ne sera jamais la paix. Ça sera juste une paix qui prépare la guerre. N'est-ce pas? Alors, où est-ce qu'on doit regarder? Comment est-ce qu'on doit regarder? Regardons en avant. Hébreux 11, 36, 40. D'autres éprouvèrent la moquerie et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre, à tous ceux-là qui avaient reçu par la foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Si aujourd'hui tu te sens privé de quelque chose, dis-toi que Christ a prévu déjà le meilleur. Amen. Si aujourd'hui tu es peut-être privé de certaines libertés, dis-toi que la plus grande liberté, c'est celle que tu as en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Si aujourd'hui tu es privé de bien des choses, peut-être que c'est la seule manière aussi pour toi, mon frère, ma sœur, finalement d'être épuré de tout ce qui n'a pas de valeur dans ta vie, de passer au creuset. Je termine par ça, cette image. Il eut un temps quand les orfèvres travaillaient l'or ou les métaux précieux n'avaient pas de thermostat. Ils mettaient tout, laissaient chauffer, hein, l'or, laissaient chauffer et les impuretés montaient. Pour que ce travail se fasse, il fallait chauffer. Peut-être que dans notre vie, ça chauffe. Et les impuretés remontent. Vous savez, celles qu'on a cachées au fond des tiroirs. Parfois, on fait le ménage, vite fait. Soulève le tapis. Hop, ni vu, ni connu. Hein? Dites pas que vous avez jamais fait ça. Bon, ça serait une autre histoire. Alors, les impuretés remontent. Mais pour savoir si l'or est arrivé à la bonne température, en effet, le fendeur plaçait son visage au-dessus du creuset. Et lorsque le visage du fendeur se reflétait dans le creuset, c'est que l'or était arrivé à la bonne température. Ça veut dire que quand Christ se reflète dans notre vie, c'est là que nous avons été purifiés. Alors, on veut tous de Jésus-Christ dans notre vie, même si ça chauffe? Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, enlève toute impureté? Peut-être, frères et sœurs, que pour être libérés de certaines impuretés, nous aussi, on va devoir passer par certaines épreuves. Je ne dis pas qu'on va les chercher, gardez-vous de ça, ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Mais soyez rassurés que Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour vous. Amen. Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour nous. C'est pour cela que Jésus est venu à la croix. C'est pour cela qu'il est mort. C'est pour cela qu'il est ressuscité. C'est pour cela qu'il est assis auprès du Père, pour nous offrir quelque chose de meilleur. Seigneur, nous voulons encore ce matin incliner nos têtes, Seigneur, devant toi. Et reconnaître, Seigneur, que certes, ta parole nous parle de ce qui est meilleur, mais peut-être qu'encore nous avons certaines difficultés liées à notre nature humaine, charnelle. Seigneur, nous avons encore certains secteurs de notre vie qui ont besoin, Seigneur, d'apprendre à te connaître davantage, Seigneur, et non pas seulement voir en toi celui qui est venu, qui a été trouvé, Seigneur, dans une petite mangeoire, qui a été amené dans un temple, celui qui faisait que des miracles, Seigneur, celui qui est mort à la croix et pour certains encore attaché à cette croix, nous croyons dans celui qui est vivant. La mort n'a pas pu te retenir, la croix n'a pas pu te retenir. Tu as transformé, Seigneur, ce symbole de malédiction en un symbole de bénédiction pour nous tous, Seigneur. Seigneur, nous avons encore besoin de te connaître et de mieux te connaître. Et là, Seigneur, tout doute qui pourrait parfois, Seigneur, taper à la porte de notre cœur, aurait notre foi qui lui répond. Seigneur, cette foi qui nous permet de dire en Christ, j'ai le meilleur. Le doute pourra jamais rien m'offrir de meilleur que Christ. Rien mieux que Jésus-Christ. Et Seigneur, lorsque l'épreuve, elle est là, Seigneur, donne-nous de garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Toi qui as préparé pour nous, Seigneur, une meilleure récompense. Seigneur, toi qui as préparé pour nous un meilleur héritage. Toi qui as préparé pour nous une meilleure patrie, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin encore, Seigneur, pour le temps qui nous est accordé sur cette terre, Seigneur, de manifester, Seigneur, ta vie en nous, pour que le monde voie, Seigneur, qu'il n'y a pas mieux que toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de ta bonté, de ta miséricorde. Merci de ta grâce, Seigneur. Nous te louons et nous te glorifions au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.